Chers amis et très très fidèles auditeurs, et bonsoir à mon cher Christophe.
Bonsoir les amis, ça fait vraiment du bien d'être là ce soir, quand je pense que c'est déjà la deuxième émission extraordinaire. Regarde, je commence à avoir des rides, j'ai l'impression là, j'en ai une là qui pousse.
Arrête donc un peu ton cinéma s'il te plaît Christophe, tu n'es pas si vieux que ça. Et si tu veux même savoir, je te trouve encore plus élégant cette année que l'année dernière.
Quand même, c'est comme l'année dernière, j'ai ressorti mon costume de mariage. La bonne nouvelle, c'est que je rentre encore dedans, tu vois, je suis encore...
Bon, trêve de plaisanterie, hein, car comme l'année dernière, nous allons proposer à nos amis de prendre le temps durant les 45 prochaines minutes de ne pas aller en...
Et afin de regarder hein, tous ensemble le film de cette année 2013 qui vient de s'écouler et qui fut riche hein, en actualité, mais surtout en émotion.
Et puis, c'est avant tout l'occasion de trinquer tous ensemble, n'est-ce pas Christophe?
Oui, alors cette année, nous vous proposons de jouer avec nous, enfin, surtout toi, Oumi. Hein. J'ai ramené un Monopoly coréen que le Père Noël a mis dans mes souliers.
Très bonne idée. Enfin, tes porte-avions, car, chers amis, quand tu n'avais pas l'image, je vous signale que l'ami Christophe fait du 46 en pointure de chaussures. Il marche donc sur l'eau, c'est tout comme...
Ouais, c'est un miracle. Merci, Oumi, hein, pour ce commentaire très instructif. Alors, je disais donc que ce Monopoly est à s'y méprendre le même qu'en France, sauf que, bien évidemment, le nom des rues reprennent des quartiers célèbres de Séoul et pas de Paris, j'espère que je suis.
Est-ce que je peux avoir le petit chien comme outil?
Oui, c'est mon préféré. Et puis, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je vais prendre le portable, non, c'est ça.
Que doit-on faire alors?
Eh bien, nous allons jouer ensemble, à traverser de long en large la capitale du pays du matin clair et partir à chaque fois à la rencontre de nos chers chroniqueurs avec cette question, ma foi, très simple. Enfin, 2013, c'est quoi pour toi?
Ah oui, c'est pas mal, cette balade. Un bon moyen de se promener et de rembobiner le fil des événements de cette année. On commence ici?
Oui, mais je vais être galant. À toi l'honneur, vas-y, lance les dés.
4, 2, 3, 4.
Insa Dong, pas mal pour commencer le quartier traditionnel de Séoul où se croisent artistes et poètes.
Mais aussi musiciens. Justement, demandons à Yoon Yeni, animatrice hors pair, d'où source de la musique coréenne, il a été pour elle le fait marquant de cette année 2013.
Salut Yeni.
Salut Christophe.
Ouais, c'est cool de se retrouver comme ça pour cette émission de fin d'année.
Je dirais le mariage de mon frère et puis le décès de mon oncle. C'est très personnel, mais c'est un peu comme ça. Parce que j'ai un grand frère qui s'est marié au début juin et puis c'était une occasion de grande retrouvaille familiale parce qu'une partie de ma famille habite aux États-Unis. C'était un moment très heureux et très joyeux pour moi et pour tous les membres de la famille. Et puis enfin fin août, mon oncle nous a quittés comme ça. Il s'est fait un cancer de l'estomac pendant longtemps, mais on s'attendait pas vraiment à cette mort un peu, ouais, subite quoi. Donc, et j'ai retrouvé enfin tous les mêmes visages en fait de la famille dans une ambiance totalement différente et ça m'a fait un peu trop bizarre quoi.
Ouais, j'imagine, ça doit être très touchant d'être à ce moment-là. Et si tu devais revenir sur l'année de aux sources de la musique coréenne, est-ce qu'il y a un chanteur, une chanteuse qui t'a particulièrement marqué cette année?
En fait, on a proposé d'écouter plusieurs chansons de Kim Yong-woo, et qui est un excellent chanteur. Et en fait, il joue un peu la musique traditionnelle et puis la musique contemporaine. Et ses paroles sont très très, très drôles.
Il est compositeur, interprète en même temps. Il essaie de greffer entre guillemets la musique traditionnelle à la musique moderne.
D'accord.
Merci Yeni.
Merci beaucoup Yeni. Et vous retrouverez Yeni et son émission musicale chaque mercredi soir.
Au fait, c'est à toi Christophe de lancer l'été.
Oh oui, c'est vrai, t'en bouge pas. Let's go. 6.
Yes.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Namsan Tower, la tour Eiffel coréenne. Cette tour de télécommunication m'impressionne toujours autant. Alors, je sais pas toi, mais à chaque fois que la nuit tombe sur Séoul, elle scintille de rouge en son sommet. C'est absolument splendide.
C'est le symbole de Séoul. Hein. Justement, en parlant de Séoul, demandons à Moon Soo-young quelles furent les personnalités marquantes de Séoulscope cette année. Bonjour Moon Soo-young.
Bonjour mes amis.
Salut Soo-young.
Salut.
Ça fait plaisir de te voir. Hein.
Oui. Cette année, j'ai rencontré beaucoup plus de personnalités que les années précédentes parce que j'ai dû remplacer Eva quand elle était partie pour son accouchement. Et puis, à partir du mois d'octobre, je m'occupe de cette émission tout seul.
À plein temps.
Parce que Eva encore, elle m'a complètement abandonnée.
Aïe, aïe, mais ça c'est Eva, je la connais.
Oui, mais j'ai accepté cette responsabilité avec un grand plaisir parce qu'elle me permet toujours de rencontrer des personnes, des personnalités que j'aurais pas pu rencontrer en dehors de cette émission. Des réfugiés qui sont inconnus ou même méconnus en Corée du Sud, ou sinon des auteurs francophones comme David Fuentes que vous connaissez bien, je pense, ou Jean-Philippe Toussaint, un des finalistes du prix de Goncourt 2013. Donc je suis impressionnée beaucoup plus par des jeunes cinéastes sud-coréennes plutôt.
Coréennes.
Oui, coréennes. Par exemple, Kim Jae-hwa, une actrice qui a joué dans le film Roller Coaster, qui est sorti en octobre dernier. C'est le premier film de Ha Jung-woo. Et puis une jeune réalisatrice qui a tourné un court-métrage sur le sujet de l'adoption, un jeune coréen adopté en France. Ça m'a beaucoup touché.
J'aimerais revenir juste sur ce que tu viens de dire, que comme quoi la radio te permet de vivre encore plus de choses, c'est vrai, et moi qui suis photographe, je pourrais dire aussi que la photographie me permet de rendre cette vie ordinaire extraordinaire, en fait.
Extraordinaire.
Et la radio, c'est ça. Merci beaucoup, hein, c'est incroyable quand même les personnalités qu'on peut rencontrer à Séoul en une année.
Une capitale au cœur de la mode, c'est certain.
Ouais, et poursuivons notre petit bonhomme de chemin, si tu le veux bien, j'ai hâte de gagner ce jeu.
Avant de l'avoir tué.
Bon, allez, à toi, vas-y.
6.
Ouais, décidément, tiens.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ouais,
oh,
non.
Prison.
Oui, bah non. Bah là, te voilà à la prison de Seo Dae-moon, où de nombreux opposants politiques furent emprisonnés durant l'occupation japonaise. Xavier Lyodé voulait justement nous parler d'une page d'histoire qui l'a beaucoup marqué cette année. Écoutons-le.
Oui, alors, je voulais parler à nos auditeurs des femmes de réconfort.
D'accord.
En fait, ce sont des femmes qui ont été emmenées de force pour être exploitées comme esclaves sexuelles par les militaires japonais. Alors, ça s'est passé sous l'occupation japonaise jusqu'à la fin donc, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un drame humain à plusieurs niveaux. Alors, d'une part parce que les femmes qui ont été déportées vivaient dans la peur perpétuelle d'être tuées ou en tout cas battues, maltraitées. D'autre part parce que même si cette affaire s'est terminée et qu'elles ont pu retrouver leur famille, il leur était presque impossible de dire ce qui leur était réellement arrivé. La société coréenne était encore très rigide et il valait mieux pour tous cacher cette honte, même si elle n'était pas en rien responsable de leur sort. Et puis bien sûr le Japon qui continue de nier son implication jusqu'à même mentionner de manière très partielle et orientée la période coloniale et ses crimes de guerre dans les manuels scolaires.
Mais je crois que ces femmes ont rompu le silence depuis.
Oui, elles ont trouvé le courage d'affronter le monde en osant dire qu'elles avaient été femmes de réconfort. Elles ne voulaient pas qu'on laisse de fausses informations couvrir la vérité. Les femmes coréennes de réconfort ont commencé à se rassembler devant l'ambassade du Japon à Séoul depuis le 8 janvier 1992. Chaque mercredi, tout à fait, oui, à midi, et ça fait donc plus de 20 ans que ça dure. Alors ce qu'elles attendent avant qu'elles s'éteignent une à une naturellement, eh bien, c'est que le gouvernement japonais présente des excuses officielles et accorde des indemnisations. Ces femmes déclarent qu'elles n'ont aucune haine envers les Japonais, c'est simplement une reconnaissance de la vérité historique.
C'est vraiment un sujet très touchant dont tu viens de nous parler.
Et qui hante depuis tant de temps la mémoire collective coréenne. Il serait bon qu'un jour nos voisins reconnaissent les atrocités du passé dont les autorités japonaises d'aujourd'hui ne sont bien entendu pas responsables. Nous le comprenons afin de tourner enfin la page.
Et moi je te propose de marquer une petite pause en écoutant ce premier opus du bêtisier où tu le verras, nous sommes un peu les vedettes.
Aujourd'hui,
Kim Hansol, qui parle parfaitement l'anglais et arbore des piercings aux oreilles, des actes factieux.
Oh, putain, merde.
6180.
Mairatima, c'est comme ça.
Mairatima.
C'est pas 2000, c'est 2011.
Ah, c'est, ça termine le journal de ce mec de ce vendredi.
Alors qu'il est soupçonné d'avoir visité un salon de messages. Un message.
C'est la fin de votre journal qui vous a été présenté aujourd'hui par Laurent Morel. Merci de l'avoir suivi et bon week-end.
Tu gardes des rires en poche, Oumi, hein, car je t'en mets une couche d'ici peu, tu vas voir.
C'est à toi ou à moi de jouer?
À moi. Allez, c'est parti. 2-1-2, Myeongdong. Le quartier, selon moi, de tous les excès. Alors, il y a tout à Myeongdong. C'est le quartier de la mode par excellence. Alors, quand on arrive d'Europe, c'est un peu l'image clichée, tu vois, qu'on se fait de l'Asie. Des néons, des gens partout, des magasins ouverts jusqu'à tard le soir. Hein.
Des restaurants surtout, hein, on peut manger de tout à Myeongdong.
Et demandons donc à l'animatrice de Saveurs du Terroir, la très belle Wang Yang, de nous parler justement des petits plats que les Coréens apprécient beaucoup en hein, cette période de fin d'année.
Voilà une rubrique qui va vous mettre l'eau à la bouche.
Salut Wang Yang.
Bonjour, voici la très belle Yang.
Oh oui.
Comme vous venez de l'évoquer, il y a tout à Myeongdong. Dans la petite ruelle de ce quartier de la mode, au centre de Séoul, on peut trouver des petits magasins de vêtements, de cosmétiques, des salons de coiffure. Mm-hmm. Bref, mais après avoir fait du shopping, on commence à avoir faim. On n'a pas à casser la tête pour choisir le menu, car partout dans les rues de Myeongdong, on attire notre appétit avec des petits plats.
C'est vrai, quand on fait du shopping, on a souvent faim, et moi le premier.
Très fatigant aussi.
Bon, il y a d'abord le tteokbokki qui est le plus souvent recherché. Il s'agit d'un plat très épicé à base des morceaux de gâteau de riz, de la pâte de piment rouge, de la pâte de poisson bouilli et des légumes.
Ah, c'est piquant des fois ça aussi.
Ouais. On l'accompagne souvent avec le bouillon chaud en moukouk à base d'anchois séchés et du radis. Lorsqu'il fait froid en hiver, cette soupe contribue à réchauffer le corps. Pour ceux qui aiment quelque chose de plus léger, il y a les kneppbang. On peut dire que ce sont des gaufres coréennes remplies de pâtes de haricots rouges cuits dans un moule qui a une forme de carassin, d'où son nom kneppbang. Parfois, à la place de la pâte de haricots rouges, il y en a qui sont fourrés d'autres ingrédients tels que la sauce pizza, la pâte de patate douce et la crème fraîche. On n'est pas manqué, bien sûr, le crouton, la galette ronde préparée avec de la farine de riz gluant fourrée de sucre brun et de noisettes.
Ça brûle un peu ça, hein. Et cette intervention de Yang m'a ouvert l'appétit.
Ne te repose pas sur tes lauriers, mon cher Christophe. Regarde plutôt ça.
Dis-moi,
1, 2, 3, 4, 5, hein.
Gyeongbokgung et son palais. Alors là, t'es à deux pas de chez moi. Tu traverses la rue, t'es arrivé. Hein. C'est un quartier que j'adore, hein, tu le sais bien. Mais peu de gens, au final, savent qu'à deux pas de là, juste au bout de la rue, se trouve la résidence de la présidente.
Qui, justement, fête ses un an à la tête de notre pays. Demandons leur avis à Iseo, Koo Jang-san et Bang Mi-lim, qui animent votre magazine de société Séoul au jour le jour sur cette première année de Bakune.
Et bonjour à vous, les amis.
Bonjour.
Alors, Mi-lim.
Moi, je pense que comparé à il y a 5 ans, c'est-à-dire la première année de Lee Myung-bak, la première année de Park Geun-hye, ça s'est passé plutôt bien, parce que vous vous souvenez qu'en 2008, à cause des manifestations au sujet de l'importation de bœuf américain, Lee Myung-bak avait beaucoup de difficultés.
Ouais, tout le monde manifestait, il y a plus d'un million de personnes dans les rues.
Voilà.
Pour un début, c'était un peu difficile.
Donc, pour un début, voilà, c'était un peu difficile, mais cette année, relativement, quand même, il n'y avait pas un grand problème, hein, même s'il y avait des bruits dans la nomination de fonctionnaires. Je crois qu'à part ça, il n'y avait pas grand problème.
Il y a pas mal de scandales.
Oui.
Oui,
mais surtout l'éventuelle intervention du NIS, les services secrets, dans la dernière élection présidentielle.
Mais oui, laissons Diouk justement peut-être nous donner son commentaire et son avis par rapport à cette élection.
Par rapport à la première année du mandat de Inambak, celle de Pakonnet était plus tranquille, c'est vrai. Et en plus, point très positif de sa politique et qui a été très apprécié par beaucoup de Coréens qui ont voté au non pour Pakonnet, c'est son intransigeance face à des coups d'intimidation de Pyongyang. Par exemple, lorsque la Corée du Nord a fermé le complexe industriel de Kaesong et n'a pas cédé, et finalement c'est Pyongyang qui a été obligé de revenir sur sa décision. Et cela dit, ce qu'on peut regretter, c'est que pendant sa campagne électorale, elle a beaucoup parlé, comme le candidat de l'opposition, de la démocratisation de l'économie. Et curieusement, depuis qu'elle a pris le pouvoir, on n'en parle plus.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est même les électeurs me semblent avoir oublié cette promesse de l'ancien candidate à la présidentielle. Pourtant, bon, elle a beaucoup insisté sur, par exemple, la restructuration des géoles des conglomérats sud-coréens. Donc, les électeurs ont été suffisamment informés de ce que c'était la notion de la démocratisation de l'économie.
Et maintenant, on pose un salon.
On lui passe le micro tout de suite.
Ça fait déjà un an que la Corée du Sud a élu sa première femme présidente. Comme tout le monde le sait, sa victoire à la présidentielle a été due principalement à son père, l'ancien président Park Chung-hee. Alors je ne pensais pas que son élection pourrait réduire la discrimination sexuelle envers les femmes dans la société coréenne. Et l'attitude de la presse sud-coréenne m'a vraiment déçu. Normalement, après l'élection, les journaux publient des articles sur l'élu. Dans ce cas, on parle en général de sa carrière politique, de ses idées, de ses convictions, etc. Et cette fois-ci, j'ai remarqué que la presse s'intéressait considérablement à la mode de la présidente. Les journaux ont même analysé sa manière de s'habiller. Je n'ai jamais vu ce genre de choses dans les cas des anciens présidents qui sont tous des hommes. Non seulement en Corée du Sud, mais aussi dans le monde entier, la société exige que les femmes se fassent belles, quel que soit leur métier. Je le sais bien, mais je n'ai jamais imaginé qu'elle pourrait l'exiger même pour un chef d'État. Alors, paradoxalement, l'arrivée au pouvoir d'une femme m'a rendu plus pessimiste à propos de l'amélioration du statut de femme dans notre société.
Il est vrai, comme le disaient nos commentateurs et notamment Ko Jong-sung qu'on vient d'entendre à l'instant, que le bilan est assez mitigé et qu'on l'attend un peu au tournant, cette présidente, diront certains, surtout dans le domaine économique. Hein, n'est-ce pas? Bon, ça c'est à moi, tiens, redonne-moi le dé, s'il te plaît, lâche ce dé, merci, c'est à moi.
Nous allons rester dans l'économie décidément, car tu viens d'arriver sur la venue de Gwanghwamun, qui est la terre centrale de la ville. C'est un peu vos Champs-Élysées à vous. Sais-tu que ce quartier héberge un grand nombre de sièges sociaux des plus grandes entreprises du pays, et notamment aux abords de Seoul Financial Center?
Et demandons justement à Johan Blondeau, notre spécialiste d'économie plus, si les résultats de l'économie sud-coréenne ont été bons cette année. Alors, Johan, est-ce que tout va bien?
Eh ben, si on regarde les chiffres, eh ben tout va très très bien en Corée parce que les chiffres sont très très bons.
Depuis le début de l'année, il y a une bonne reprise. La croissance est repartie à la hausse depuis un peu plus d'un an. Si on regarde un petit peu en détail, hein,
c'est là j'attendais
beaucoup
mitigé parce que seules les grandes entreprises coréennes font d'énormes profits, notamment les Samsung avec les téléphones, les écrans plats, les choses comme ça.
Samsung, je connais pas, c'est pas une entreprise.
Et aussi Hyundai, les voitures Kia qui se vendent très très bien à l'étranger. Par contre, pour les petites PME, pour les petits groupes, là par contre c'est très très difficile parce que la demande intérieure est un peu atone, parce que l'économie réelle a des difficultés et parce que les entreprises n'en sont pas aussi performantes ou parce que les gens ne consomment plus des petits produits de la vie de tous les jours ou...
Moi, je pense aussi que les conglomérats tirent un peu vers le bas. Et j'étais ce week-end avec le président d'une petite PME qui me dit qu'il y a vraiment du mal parce que les conglomérats sont de plus en plus exigeants auprès des PME sud-coréennes. Alors, d'une manière générale, le pays va bien, mais c'est clair que pour les petites entreprises sud-coréennes, c'est vraiment difficile de rester accroché. Hein.
Oui, surtout parce qu'elles sont obligées de suivre les commandes des grands groupes et donc elles sont un petit peu à la merci de la demande, donc elles ne doivent pas exiger beaucoup de choses et elles doivent suivre et puis elles n'ont pas d'autres moyens.
Je crois que tout ira bien l'année prochaine si on compte sur la politique de Park Geun-hye qui est axée sur la croissance partagée entre les grands conglomérats et les PME. Merci beaucoup, tout ira bien.
Et comme l'a légèrement laissé sous-entendre Johan, hein, l'économie va bien, hein, mais quand les relations de nos voisins sont bonnes aussi, hein, c'est tellement logique finalement l'économie en fait. Bon, je crois que c'est à moi de jouer.
Attends, c'est à moi de jouer, hein, voyons. Oh, le tricheur. Ah, je sens que tu fais exprès, hein, car je vais te dépasser. Hein. Tu ne serais pas un mauvais joueur par hasard.
Pas du tout, j'ai juste horreur de ne pas gagner.
Bon, fais-moi un peu de place. 5, hein.
C'est vrai que c'est pas mal, hein, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Le parc olympique à l'est de la ville. J'adore ce quartier, ça tombe bien.
Et ce quartier de Séoul a été construit pour accueillir les Jeux de 1988 qui avaient marqué l'entrée sur la scène internationale de la Corée du Sud. On se prenait à rêver à l'époque d'une éventuelle participation de la Corée du Nord à ces Jeux, mais elle préféra, comme en 1984, les boycotter.
Demandons donc à Frédéric Aujardiès, justement, si cette année fut bonne pour les relations entre nos deux pays.
Alors, ça a été une année très dense, hein, et très riche en rebondissements pour les relations intercoréennes. Tout d'abord, au sud, on a eu l'élection de Park Geun-hye, la nouvelle présidente, qui a affiché un peu une volonté de se montrer plus flexible vis-à-vis de la Corée du Nord, que son prédécesseur, Lee Myung-bak. Mais le régime de Pyongyang, de son côté, lui, ben, il a décidé de jouer la carte de la provocation. On a mis en début d'année des menaces de guerre, des attaques thermonucléaires, beaucoup de gesticulations. Et puis, surtout, très concrètement, la fermeture pendant 5 mois de Tissong, la zone industrielle conjointe entre les deux Corées, le dernier symbole de la coopération encore debout entre Pyongyang et Séoul. Cette zone a rouvert en août. Et puis enfin, l'année 2013 a fini sur un autre rebondissement absolument spectaculaire, la chute et l'exécution du mentor et oncle de Kim Jong-un, Jang Song-taek, une chute qui a révélé beaucoup de dissensions et qui a mis en évidence beaucoup de problèmes au sein de l'élite nord-coréenne. Donc l'année 2014 qui s'annonce sera plus que jamais une année d'incertitude pour la Corée du Nord et ce sera toujours un plaisir d'en parler pour Trade Union.
C'est toujours un vrai plaisir d'entendre l'ami Fred que vous retrouvez dans l'émission Trade Union. Bon, attends, s'il te plaît, c'est à moi. Souffle sur mes dés, ça porte bonheur. 2 1, 2.
Le marché de Namdaemun. Ah. Tu vas pouvoir m'acheter un cadeau pour Noël du coup, car on trouve vraiment de tout là-bas. Ce marché est devenu au fil des années l'un des lieux favoris des touristes, notamment japonais et chinois. Chaque année, c'est presque le moment que je préfère le plus, car c'est là, normalement, que Franck Leroy débarque avec sa guitare.
Ouais, et malheureusement, pas cette année, Wumi n'a pas pu être présent ce soir. Mais alors, il t'a laissé tout de même un petit cadeau sonore. Tu vas voir, c'est une perle. C'est un extrait d'une chanson du chanteur français M. Je pense que tu vas aimer.
L'amour ici dans l'âme, on a tellement de chance, on s'aussi coquin là, même si ça m'est égal. Comme dans nos rêves, sur cette mélodie.
morceau de Franck que j'ai adoré.
Ouais, ce matiné, il a vraiment du talent, hein, c'est clair. Hein. Vous pouvez retrouver notre ami Franck alors chaque dimanche soir en compagnie de la charmante Kwon Ji-young dans Musique coréenne.
La Corée se dévoile sur KBS World Radio.
Bon, si je regarde le plateau de jeu, je suis à 2 cases de la gare centrale de Séoul, ou 3 du quartier de Gangnam. Faut pas que je fasse 4, sinon je suis au musée de la banque de Séoul, près de nous, donc.
Bon, tu les lances les dés, là, ou pas? Qu'est-ce que t'attends, là?
Comme je sens que tu deviens mauvais joueur.
Mais non, mauvais joueur, les
gars. Oh, 3, Gangnam.
Gangnam, pas mal.
Ce fameux quartier du sud de la ville, qui est un peu notre 16e arrondissement et qui a été mise en lumière l'année dernière grâce à cette chanson que tu aimes tant.
Gangnam Style.
Bingo. Profitons-en pour demander à Kwon Ji-young justement, dont nous parlions il y a 2 minutes, quelle a été la tendance musicale de cette année.
Ji-young, je t'en supplie, ne nous parle pas de Gangnam Style ni de Psy, s'il te plaît.
Non, je voudrais vous parler de deux tendances qui ont bien marqué cette année. Oui. D'abord, la tendance rétro, donc caractérisée par les chansons qui ont été très très populaires dans les années 90. Ça stimule la nostalgie des gens qui ont vécu leur jeunesse et adolescence à cette époque-là, y compris moi-même. Donc c'est à cause de récents succès de feuilleton télévisé qui s'appelle Répond 1994, c'est la saison 2 de Répond 1997 qui a fait fureur l'année dernière. Grâce à ces succès, en fait, ça permet aux gens de réécouter et découvrir même des chansons qui ont marqué les années 90. Il y a pas mal de remakes interprétés par des croquis d'or ou de jeunes chanteurs solo, etc.
Retour à la nostalgie. Donc.
Voilà.
Deuxième tendance.
Deuxième tendance, en fait, c'est voilà, il y a une grosse tendance de collaboration entre les différents groupes et les différents chanteurs féminins et masculins. C'est sûr, c'est en fait ce genre de collaboration, on voit très très souvent, et puis ça crée pas mal d'effets synergie. Donc ils se réunissent ensemble pour sortir un album ou un single, ou bien ils se réunissent tout simplement pour donner un concert de Noël ou de fin d'année comme ça.
D'accord.
Il y a pas mal de collaborations aussi entre la scène de la K-pop, c'est-à-dire représentée par les groupes d'idoles, mais aussi en fait entre les artistes de la scène indépendante, sinon entre les deux scènes. Alors je trouve ça très positif.
En un mot, quelle harmonie, quelle coexistence.
Merci
pour ton éclairage sur les tendances musicales.
On doit repartir parce que là je suis en train de battre Wumi au jeu. Hein.
Bon, si je regarde une fois de plus le plateau de jeu, tu es loin, 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 mon pote.
Ne t'inquiète pas, c'est juste que je prends de l'élan. Alors ne touche plus à CD puisque je sens que tu cherches à les envoûter. Tu dois avoir un gris-gris quelque part. Alors attention, mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Deux. Oh non, pas deux encore une fois, tiens.
Que veux-tu la retour?
Je me retrouve au bureau central de la poste de Séoul. Alors, c'est sympa comme lieu avec son petit musée, mais j'aurais quand même préféré Gangnam, tout compte fait.
En parlant de poste, tous nos auditeurs sont fans d'elle, mais malheureusement, elle va déjà nous quitter.
Park Joo-yeon, tous nos auditeurs la connaissent sans exception. À chaque fois, elle reçoit des lettres d'amour, on lui chante des chansons rien que pour elle. Et oui, chers amis, demandons-lui quel souvenir elle gardera de cette année passée avec nous.
Bonjour, mon expérience à la KBS World Radio aura profondément marqué mon année 2013. J'étudie la littérature française à la fac. J'aimais bien communiquer avec divers auditeurs aux quatre coins du monde, de l'Afrique à l'Europe. La fidélité de nos auditeurs m'étonnait souvent. Et j'étais très heureuse quand je recevais des réponses des auditeurs qui aimaient des pièces ou des petits cadeaux que je leur envoyais. Communiquer avec les auditeurs m'a donné envie de redoubler d'efforts pour apprendre la langue française. Aussi, je souhaite qu'un jour, je puisse vous rendre visite par un programme d'échange universitaire ou justement pour un voyage comme QI.
Je suis vraiment désolée de devoir vous quitter pour poursuivre mes études, mais ma remplaçante est Siran, avec qui je suis amie depuis le lycée, donc ne vous inquiétez pas. Bonne année.
Et donc, on va accueillir aujourd'hui Siran, c'est ça, hein?
Bonjour, je m'appelle Siran et je suis remplaçante de Juan. Et je suis très heureuse de travailler ici et en janvier.
Eh ben merci, c'est clair. On ira très bien
et
ensemble.
Siran, je compte sur toi désormais pour bien s'occuper de nos auditeurs. Et à très bientôt, merci.
Et Juan, vraiment encore 30 secondes hein, juste pour te remercier du super travail que tu as fait cette année avec nous. Et moi qui suis au contact des auditeurs régulièrement, ils te remercient aussi énormément et merci beaucoup. Hein.
Merci.
Enfin, je crois que c'est à toi de jouer, hein? Non?
Oui.
Allez, vas-y.
Deux.
Ouais, c'est pas si mal, hein. Tu te vois là à Hongdae, le quartier le plus underground de la ville. Alors, ce quartier étudiant est le lieu où l'on doit absolument se promener le samedi soir quand on est ici, hein, pour faire les rencontres les plus improbables.
Vous tomberez peut-être un soir au détour d'une salle obscure sur Antoine Coppola, notre monsieur cinéma, car c'est son quartier de prédilection.
Et demandons justement à Antoine, hein, quel fut pour lui le meilleur film de l'année.
Donc pour dire adieu à 2013, le meilleur film à mon avis, il y a un film indépendant qui s'appelle Im Ni-se-yo, Lee Byung-hyun-chi, Cheer Up Mr. Young, qui est un film indépendant magnifique sur l'autoportrait d'un jeune réalisateur qui essaye de faire son premier film. C'est une comédie et c'est vraiment fabuleux. Le deuxième film, c'est évidemment Son Gok Yeolcha de Bong Joon-ho, France Personnage. Je pense que c'est une première parce que c'est vraiment un film international et il a réussi à transcender l'œuvre française, le transpersonnage, un film qui est à la fois postmoderne et annonce des films coréens à venir.
Donc, si je récapitule un peu le jeu, parce qu'il faut qu'on fasse un peu le débat quand même, t'es à 5 cases de moins, c'est ça, hein?
Donc, tu n'as aucune chance de me rattraper.
Alors, tout à l'heure, tu me sortais l'expression de l'ours, là. Moi, je te dirais, ne vends pas le kimchi avant de l'avoir fermenté, s'il te plaît. Allez, je lance les dés, attention. À la une, à la deux, et ben voilà.
Trois.
C'est pas possible, c'est pas possible.
Direction le quartier d'Itaewon, oui, Itaewon, le quartier où se rassemblent le plus de nationalités différentes à Séoul. Itaewon est souvent surnommé comme le village international de Corée en raison de sa forte concentration de résidents étrangers et de son ambiance multiculturelle.
Et demandons justement à Sandrine Choupou Tatsabon, quel a été selon elle l'événement le plus international auquel elle a eu l'occasion de participer cette année.
Voilà une belle manière de poser un regard sur la Corée.
Pour moi, l'événement le plus marquant de cette année, c'était sans doute un concert auquel j'ai participé. Donc, c'était un concert assez spécial. C'était un concert organisé avec des amis africains. Nous étions environ 7 nationalités représentées. Il y avait bien sûr le Cameroun, le Nigeria, le Burundi, le Gabon, l'Ouganda et le Kenya, je crois, si je me rappelle bien. On avait aussi des amis coréens et des amis d'autres pays. Et on avait décidé de partager un peu la différence d'expression corporelle parce que nous avons différentes façons d'exprimer nos émotions dans la musique. Donc le style musical est un peu différent.
Donc vous avez dansé, chanté, c'est ça?
Oui, on a chanté d'abord. Et puis, disons, chanter souvent pour les Coréens, c'est vraiment chanter. Bon, comment je vais dire, c'est un peu, c'est très, permettez que je dise ordonné. Mm-hmm. Par contre, nous...
Alors là, là je te retiens parce que non, c'est pas possible. Si tu voyais Oumi danser, je t'assure, c'est plutôt ordonné, c'est plutôt désordonné.
Mais tu vois, les Coréens, ils dansent d'abord avec un bras, puis un autre, puis le mouvement va d'un membre à l'autre. Par contre, nous, c'est différent. Nous, pour nous, c'est vraiment important de bouger des parties comme le bassin ou la poitrine. On a donc décidé de partager ce moment ensemble. Donc, ils nous apprennent à bouger les bras l'un après l'autre. Pour moi, c'est sincèrement très difficile. Puis moi, c'était bien. J'ai aimé ça parce que c'était un peu un moment de partage interculturel, même si c'était un partage beaucoup plus, comment je dirais, physique, puisque c'était à travers la danse, mais... On a appris les uns des autres.
Sandrine, tu m'apprendras à bien danser à partir de l'année prochaine.
D'accord, il va falloir que tu travailles le bassin.
D'accord, ok, promis.
J'aurais quand même tellement aimé que Sandrine nous pousse la chansonnette en direct, mais je ne vais pas l'embêter en cette période de fête.
Oui, et si tu l'embêtes, tu auras affaire à moi, je te préviens. Christophe, avant de continuer notre jeu et d'accueillir d'autres collègues, le deuxième épisode de notre beau bêtisier.
Ah, mais je trouve ça très très bien, volontiers, avec grand plaisir, très bonne idée.
Bonjour à tous, mais...
Cependant, la production de John Doyon, pardon...
Pour envoyer à leurs clients leur colobat...
Cette fête... Attends, passage 4.
Voici une petite...
Coup of My Life, The Last Royal Family, Moon River...
De plus en plus j'en préfère...
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de votre rendez-vous sportif de la semaine. On commence avec quoi?
Merci beaucoup pour avoir marqué un 6 en soutien. Laurent,
certaines entreprises... Non, qu'est-ce que je raconte?
Bon, écoute, j'ai profité un peu de cette pause du bêtisier. L'attendez où sur le jeu exactement, sur le plateau de jeu là? Ah oui, pardon, c'est vrai, t'es à honte, autant pour moi.
J'approche de la fin, mon coco.
Allez, vas-y, lance poulette.
Tu peux souffler dans mes mains hein, pour me porter bonheur.
Je ne vais pas te mordre, tu vas voir.
Trop cool. 4.
4, c'est pas mal, hein.
1, 2, 3, 4. Le stade de la Coupe du Monde 2002, faisant défiler avec Benjamin Mazin, les temps forts de cette année sportive. Alors, à vos marques.
J'ai choisi de vous parler des deux événements sportifs qui ont marqué l'année 2013. Ça a été pour moi le transfert de Ryu Hyun-jin, qui est passé directement du championnat sud-coréen au meilleur championnat de baseball au monde aux États-Unis et qui a signé un contrat record de 36 millions de dollars sur 6 ans. Et même si le célèbre lanceur gaucher a joué à l'étranger, il a bénéficié d'une très grande couverture médiatique et chaque semaine en Corée du Sud, ses matchs étaient retransmis sur la télévision coréenne. Et d'après les sondages, il est aussi le sportif préféré des sud-coréens en passant même devant Yuna Kim. Et ensuite, difficile d'évoquer l'année 2013 sans parler de Park In-bi en golf, qui a réalisé un début de saison absolument exceptionnel en raflant 3 tournois majeurs d'affilée. C'est une performance qui est assez rare hein, et qui lui a permis de prendre très tôt la place de première joueuse mondiale et d'avoir suffisamment d'avance pour rester première jusqu'au bout, malgré une fin de saison, on peut dire, assez banale. Et à noter aussi que Park In-bi figure à la première place en termes de gains.
Je retiens surtout pour ma part que la Corée du Sud est qualifiée pour la Coupe du Monde de football 2014 au Brésil et je sens que l'on va faire un bon résultat.
Ouais, croisons les doigts, hein, c'est clair. On va reparler de sport dans un instant car j'ai bien essayé de le faire taire, je t'assure. J'ai essayé, je l'ai ficelé à son fauteuil, mais Laurent Morel veut revenir sur une visite bien particulière d'une personnalité qu'il est tout autant. Hein.
Arrête de le taquiner, s'il te plaît. Hein. Écoutons-le plutôt.
Ouais, alors Laurent, eh bien, moi j'ai décidé de parler d'un sujet assez léger parce que d'habitude on parle tu vois, tous les jours dans le journal de la Corée du Nord pour dire des tas de choses très sérieuses, des menaces de guerre, tout ça.
C'est vrai.
Et puis un jour, qu'est-ce que je vois dans le journal? Dennis Rodman en Corée du Nord. Et là, j'y croyais pas mes yeux, et puis, parce qu'en plus, quand j'étais jeune, dans les années 90, j'étais fan des Chicago Bulls, et Dennis Rodman jouait avec Michael Jordan dans la grande équipe.
Donc c'est un basketteur.
C'est un basketteur qui fut de 2m30 à peu près, qui est l'un des plus grands défenseurs du basket américain. Et cette année, il a décidé d'aller en Corée du Nord pour rencontrer Kim Jong-un et essayer de rapprocher les États-Unis et la Corée du Nord. Alors là, d'un coup, je me suis dit, mais on est tombé dans la quatrième dimension.
C'est clair.
Parce qu'en plus, quand on voit les photos, mais on voit ce géant qui plein de tatouages, qui a des anneaux dans le nez, dans les oreilles, et qui est à côté de Kim Jong-un. Et là, d'un coup, on...
Mais Kim Jong-un, dont la coiffure est extravagante, elle aussi, hein.
Voilà, mais on a un basketteur qui a fait des rôles de série B dans des films et qui d'un coup se retrouve à côté du jeune dictateur nord-coréen sanguinaire. C'est les meilleurs amis du monde apparemment, donc c'est une grande surprise.
Mmh.
Mais en plus, quand on écoute l'interview de Dennis Rodman à son retour de Corée, il est pas très futé, il faut le dire aussi.
Et donc, je pense qu'il aura du mal à rapprocher les deux pays comme ça. Il se prend un peu pour un diplomate. Et puis, ça nous montre un peu que dictateurs comme Kadhafi, qui s'entourait de belles blondes pour sa garde rapprochée, et lui, il y a deux mondes. Il y a la Corée du Nord. Et puis, après, il y a leur fantaisie. Kim Jong-un, c'est le basket. Et d'un coup, il se retrouve à côté de cet énergumène, Dennis Rodman.
Écoute, merci pour cette touche de liberté, de légèreté, excuse-moi, pas de liberté, parce que justement, c'est bien le contraire là-haut. Parce que je dois te dire qu'on est en train de jouer avec Oumi, et le jeu est presque fini. À moins d'un miracle, Oumi va gagner, parce que je suis loin derrière elle. 6 cases, hein, je crois. J'ai aucune chance.
Ne baisse pas les bras quand même, s'il te plaît.
Bon, allez, c'est parti, je vais lancer. Voilà. 5, quelle malchance, terminé à une case de toi. Non mais, je m'incline, Oumi, tu es la meilleure.
Comment mieux finir ce jeu en arrivant à Yeouido, pour ainsi dire ici, car c'est dans ce quartier où se trouve le siège historique de notre radio. Profitons-en pour revenir sur les 12 anniversaires qui ont marqué cette année avec Yoon Hye-jung et Oh Ha-young.
Alors pour toi, Hye-jung, quel est l'événement majeur qui a marqué cette année 2013 et notamment pour nous ici à la radio?
Pour notre station, cette année est une année particulière, je dirais même historique, parce qu'elle a eu 60 ans, 10 ans plus âgée que moi. C'est plus exactement le 15 août 1953, au lendemain de la guerre de Corée, qu'elle a diffusé ses premières émissions. En Corée, peut-être en Chine ou au Japon, il y a une vieille tradition qui veut qu'on prépare la fête du 60e anniversaire très spécialement. Bon, je ne suis pas là pour parler de l'espérance de vie, mais pour parler de ce que notre maison a fait pour fêter cet heureux événement. Elle a d'abord réalisé un documentaire spécial qui retraçait ses 60 ans et les souvenirs partagés avec ses anciens journalistes et ses auditeurs de longue date. En l'écoutant, j'ai moi-même appris beaucoup, beaucoup de choses que je n'avais pas connues avant sur l'histoire de notre radio. Autre événement de l'anniversaire, il s'agit cette fois d'un concert spécial intitulé « La K-pop à la rencontre du monde ». Les fans étrangers choisis par tirage au sort en ligne y ont été invités. Une dernière chose dont je vous parlais, c'est une exposition en ligne des photos sur lesquelles on voit nos auditeurs aux côtés d'un objet associé à leur souvenir avec notre radio. Avant de passer le micro à Rayon, elle va revenir sur l'anniversaire du service français. Je tiens à remercier encore une fois tous nos auditeurs d'aimer notre radio. Je leur souhaite à tous une très bonne nouvelle année.
Je crois qu'Ayon, toi tu voulais plutôt revenir sur l'anniversaire des 55 ans du service français, c'est ça hein?
Oui, pour cet événement, une série d'émissions spéciales a été diffusée sur nos ondes. Tout avait commencé le vendredi 5 avril dans Séouscope. Ce jour-là, Eva et moi, on vous avait proposé des interviews avec les ambassadeurs français et suisses en Corée du Sud. Les entretiens avec trois autres ambassadeurs francophones ont également été diffusés tout au long du mois d'avril. Deux jours plus tard, dans Musique Coréenne, Tion et Franck, vous avez appris à chanter « Joyeux anniversaire » en Coréen, s'il vous plaît. Et le mercredi 10 avril, le jour même de notre anniversaire donc, un Séoul au jour le jour spécial anniversaire a été présenté par Milim. Et enfin, le samedi 13 avril, entre nous, Oumi et Christophe, vous avez lu à l'antenne vos messages de félicitations.
Ouais, c'est vrai que pour ce 55e anniversaire, on avait sorti les grands plats, hein, on avait sorti l'argenterie. Beaucoup d'émissions spéciales.
Tout était intéressant et cela a beaucoup plu aux auditeurs. On a pu le constater à travers Facebook. Facebook, justement, cela nous permet de nous approcher davantage de nos amis, ce qui me fait très plaisir, même si ça me prend pas mal de temps à poster des trucs et puis pour répondre à tous leurs messages. J'espère que notre amitié se renforcera davantage à travers ce moyen l'année prochaine.
Ouais, et puis 2500 fans sur notre page Facebook, hein, ça se fête, hein, bravo. Vraiment félicitations pour le travail que tu fais au jour le jour sur cette page Facebook.
Merci et bonne année.
C'est vrai que cette année 2013 a été particulièrement chargée en événements, comme viennent de le dire Hye-jung et Hye-young.
Et toi, quel a été pour toi l'événement que tu retiendras le plus cette année?
Je veux le résumer par un dicton coréen qui dit que la joie partagée est amplifiée du double, alors que la souffrance partagée est diminuée de moitié.
Surtout en référence à la mobilisation de nos auditeurs
Dans les moments de douleur, comme par exemple la disparition de Jean Piron, le président du Radio DX Club d'Auvergne il n'y a pas très longtemps, celle d'un de nos plus anciens auditeurs également, Robert Bicard, hein, lorsque nos auditeurs ou leur famille n'allaient pas bien, je pense à cet instant à la maman de Jean-Claude Lériot par exemple.
Sans oublier notre fidèle auditeur Jean-Claude Ferré qui avait subi une opération. On peut y ajouter aussi dans les instants d'incertitude, comme il y a un peu plus d'un mois, lors de notre fréquence, et les problèmes qui s'en sont suivis.
À chaque fois, hein, nos auditeurs ont répondu présents, alors par des lettres, par des mails, des coups de fil. Hein. Et bref, c'est à des moments comme cela que l'on mesure vraiment pleinement le rôle que nous avons chaque soir quand nous prenons la parole.
Voilà, en effet, un bilan, belle manière de terminer cette émission. Le temps passe à la vitesse grand V. C'est incroyable, on entend déjà les 12 coups de minuit qui approchent.
Attention, allez tous ensemble.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, balayez !
Chers amis et fidèles auditeurs, toute l'équipe du service français de KBS World Radio
vous remercie pour votre fidélité tout au long de cette année 2013.
Et nous vous donnons rendez-vous dès demain pour de nouveaux programmes, de nouvelles découvertes,
des interviews, des reportages et de nombreux sourires, c'est évident.
Alors, une fois de plus, nous vous souhaitons à tous
bonne et heureuse année 2014.